Après une première journée de mobilisation qui a rassemblé entre 1 et 2 millions de personnes jeudi dernier, la réforme des retraites a été présentée ce matin en Conseil des ministres. Le gouvernement continue de défendre un projet de loi juste et nécessaire, selon lui. Mais y a-t-il une vraie urgence à équilibrer notre système de retraite? Cette réforme ne va-t-elle pas créer de nouvelles inégalités? Et faut-il résorber le déficit en jouant seulement sur l'âge de départ? Le débat est ouvert. Bienvenue à tous dans Rendez-vous l'écho. Et pour ce débat, nous avons invité autour de la table trois économistes. Antoine Bozio, directeur de l'Institut des politiques publiques et maître de conférences à l'EHESS. Nicolas Marquez, directeur général de l'Institut Molinari, auteur de cette étude parue en septembre, retraite, mécompte et déficit public, quand un baromètre officiel sous-évalué nuit au débat public depuis 20 ans. Et Anaïs Engel, maîtresse de conférences à l'Université Rennes 2 et membre des économistes atterrés. Une émission proposée par Aliette Ovine, Léa Sabourin, Diane Devance, c'est Laurence Genepin et Margot Bolotny.
On le sait, si on ne fait rien, les déficits vont se creuser, ce qui conduit inévitablement à baisser le pouvoir d'achat des retraités, à augmenter les impôts, voire à remettre en cause ce système de retraite par répartition, de passer dans un chacun pour soi d'un système par capitalisation. Donc ça, évidemment, nous n'en voulons pas, et c'est pour l'éviter qu'en effet, il faudra progressivement travailler plus longtemps. Le système, il est déficitaire. Et je le redis, c'est un des biens les plus précieux, ce système de retraite par répartition. Vous savez, c'est un des piliers de notre modèle social qui montre la solidarité entre les Français, la solidarité entre les générations. C'est ça, un système de retraite par répartition.
Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Merci
Bonjour.
D'être avec nous. Vous avez reconnu bien sûr la Première ministre Elisabeth Borne, invitée sur France Inter le 14 janvier dernier. Alors dans le débat proprement économique autour de cette réforme, il y a deux questions. L'une est budgétaire et l'autre macroéconomique. C'est celle qui consiste à se demander si la réforme va permettre de relancer la croissance. On va commencer avec la question budgétaire. Et d'abord, que représentent les retraites pour les finances de l'État, Nicolas Marquez?
Oui, les retraites pour les finances de l'État, c'est un impensé. Historiquement, en France, il y avait des caisses de retraite, ministère par ministère. Elles ont été fermées en 1853. Et depuis, l'État sert les retraites par le budget. Donc pendant des décennies, le nombre de fonctionnaires augmentait, la démographie était encore favorable, avec le contre-choc du baby-boom. Ça posait aucun problème. Le problème aujourd'hui, c'est que dans cette activité implicite de caisse de retraite, hein, l'État n'a pas de caisse, mais il verse 57 milliards d'euros par an. Il a promis 2770 milliards de retraites. Et en fait, le surcoût pour la collectivité est très très élevé. Si vous regardez une feuille, une fiche de paie d'un fonctionnaire, vous verrez des cotisations retraite qui représentent 85% du traitement indiciaire.
Il y a la question des fonctionnaires, qui est une question très spécifique, peut-être de façon un peu plus large pour commencer. Il faut dire que c'est 14% du PIB aujourd'hui, notre système des retraites, ce qui est un peu plus élevé que chez nos voisins européens, Antoine Bozio.
Oui, alors le système des retraites pris dans son ensemble, c'est pas uniquement l'État, hein, c'est en fait la sécurité sociale, c'est les régimes complémentaires. Donc tout ça représente 300 milliards d'euros aujourd'hui, c'est donc 14 points du PIB. Donc dans la distribution des pays européens, c'est plutôt dans le haut de la distribution de l'argent qu'on consacre au système de retraite, mais essentiellement parce que notre système français intègre dans les dépenses publiques obligatoires des éléments complémentaires qui sont dans d'autres pays facultatifs et donc qui ne sont pas inclus dans la dépense publique.
Et alors le gouvernement affirme que cette réforme est nécessaire pour rétablir l'équilibre de notre système, et pour le justifier, il se fonde sur l'une des hypothèses du rapport du Conseil d'orientation des retraites, mais il y en a plusieurs des hypothèses, Anaïs Engel.
Oui, tout à fait. Alors si on regarde un peu le rapport du COR, qui est effectivement très très commenté en ce moment, on voit que le rapport du COR, il prédit un déficit à horizon 2030 du système de retraite français, mais qui est minime et temporaire. Donc j'insiste sur ces deux points, hein, minime et temporaire. Donc minime parce qu'à hauteur de 12 milliards d'euros sur un système qui représente, comme Antoine Bozio l'a dit, 300 à 330 en fait milliards d'euros chaque année. Donc c'est une petite fraction. Et en plus, temporaire, pourquoi temporaire? Déjà parce que les réformes passées ont équilibré le système. système, c'est-à-dire que elles ont justement déjà pris en compte, hein, le ratio démographique qui se détériore, donc les réformes de 2003, 2010, 2013, et aussi parce que la génération du baby boom qui aujourd'hui touche sa retraite, bon, malheureusement, a vocation à plutôt sortir du système par la mort annoncée des personnes qui la composent.
Donc le gouvernement a choisi l'un des scénarios les plus alarmants, Antoine Bozio ?
Alors non, je crois pas, parce que dans les différents scénarios du corps, il y a différentes hypothèses de croissance. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que au vu des réformes passées qui ont fait qu'on a indexé les droits des pensions sur l'évolution des prix plutôt que l'évolution des salaires, on va venir dans les générations futures à une baisse du niveau des pensions relatives. C'est ça qui permet, dans des scénarios de croissance forte, d'avoir des projections à long terme positives, y compris même de surplus. Mais d'abord, c'est très incertain qu'on va avoir une forte croissance, plus forte que de ce qui serait dans les 15 dernières années passées, dans un contexte où on aimerait faire des actions pour le changement climatique. Et par ailleurs, il y a une, dans les 15 prochaines années, le déficit, il reste, lui, stable, quelles que soient les hypothèses qu'on prenne dans les rapports.
Pour vous, Nicolas Marquès, le déficit tel que le gouvernement l'évoque est au contraire sous-évalué ?
Oui, il est clairement sous-évalué parce que le Conseil d'orientation des retraites regarde le déficit de la répartition. Dès le début, en 2002, le Conseil d'orientation des retraites a dit « je ne regarderai pas l'État à l'instant T parce que l'État relève du budget ». Et c'est clair, l'essentiel des retraites sont distribuées en répartition, mais les retraites de l'État sont distribuées par le budget. La fonction publique d'État n'a pas rejoint la répartition en 45-46 et on n'a pas créé de grand régime universel en 2020.
Et donc ça représente pour
vous
33 milliards
de déficit par an. Et donc clairement, par rapport à ce que disait Anaïs, qui est pas faux quand on regarde le secteur privé, c'est pas 12 milliards de déficit qu'il y aura, c'est 45 milliards, il faut, et c'est pas neutre, parce que la masse des retraites c'est 330 milliards quand on intègre la répartition et les fonctionnaires de l'État qui ne relèvent pas de la répartition. Et donc on voit bien qu'il y avait un déficit de 10%, plus de 10%. Et ce déficit, il n'est pas conjoncturel, il est structurel. Et donc nous, à Molinari, on dit il faut une réforme. Et en l'occurrence, il y a deux volets. Il devrait y avoir un provisionnement dans la fonction publique, parce que l'État a fait des promesses, il faut qu'il mette de l'argent de côté, c'est ce que ferait une entreprise. Et dans le secteur privé, il faut peut-être reculer l'âge, augmenter le nombre de trimestres, mais surtout, il faut diversifier le mode de financement en rajoutant une dose de capitalisation collective.
On comprend bien, en tout cas, que quel que soit le scénario du Conseil d'orientation des retraites qu'on choisit, il y aura un déficit plus ou moins important donc. La question maintenant, c'est est-ce qu'il faut s'en alarmer et est-ce que ce déficit est vraiment minime ou est-ce que si on l'accumule sur 10, 15 ans, est-ce qu'il ne peut pas devenir un véritable problème, Antoine Bozio ?
Donc d'abord, le fait qu'on voit que les retraites, les dépenses de retraite, y compris en projection, elles sont stabilisées en pourcentage du PIB, du revenu national, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation catastrophique, comme ça a pu être le cas à la fin des années 80, où les dépenses de retraite étaient en projection, le déficit était explosif. On n'est pas dans cette situation-là. Les dépenses sont maîtrisées. Par contre, elles sont maîtrisées à un niveau qui est supérieur aux ressources auxquelles on consacre.
Donc ce n'est pas une dérive de dépenses, mais une baisse des recettes qui fait qu'on se trouve dans une situation de déficit.
C'est le fait que les ressources qu'on y consacre ne sont pas suffisantes pour aller au niveau des dépenses qu'on a engagées. Alors ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on peut repousser ? On peut repousser de quelques années. Simplement, plus on repousse, plus l'effort qu'on devra faire porter sur les générations qui auront à faire ces ajustements seront élevés. Donc, si on souhaite répartir au mieux l'effort, on a intérêt à le prendre en charge le plus tôt possible.
Et Anaïs Engel, justement, pourquoi est-ce que ces ressources baissent ?
Eh bien oui, alors j'insiste sur ce point, c'est-à-dire que comme vient de le dire Antoine Bozio, je suis entièrement d'accord, le rapport du corps mentionne qu'il n'y a pas une hausse incontrôlée des dépenses, comme on l'a souvent en tête, hein, on imagine que le système est en perdition parce que les dépenses explosent, mais en fait le système se voit privé de ses recettes. Donc c'est une question vraiment de choix politique, c'est pas du tout une question uniquement technique, c'est un choix politique qui a été fait de priver la sécurité sociale au fur et à mesure des années de certaines de ses ressources. Par exemple, je ne prends qu'un seul exemple, on a aujourd'hui, à peu près 90 milliards d'exonérations de cotisations sociales, donc de ressources, hein, la sécurité sociale, d'exonérations de cotisations sociales par an. Et sur ces 90 milliards, d'après la Cour des comptes, 9 milliards ne sont pas compensés, c'est-à-dire 9 milliards disparaissent purement et simplement des caisses de la sécurité sociale chaque année. Donc ça, on a fait le choix en France de transvaser de l'argent des cotisations sociales vers les entreprises, c'est-à-dire de financer une politique dite de l'offre. Donc ça, c'est 9 milliards par an, des exemples de ci-là, on peut en faire d'autres. C'est une question de choix politique qui consiste entreprise, donc à priver la sécurité sociale d'une partie de ses ressources, et puis donc avec des dépenses qui sont qui stagnent, donc on a finalement un déficit qui apparaît.
C'est ça qu'on appelle la politique des caisses vides.
Exactement, c'est exactement ça. C'est la politique des caisses vides, ça fait partie des deux arguments auxquels font face les opposants à la réforme des retraites. C'est-à-dire que on a donc deux arguments qui font partie d'une rhétorique néolibérale, hein, si vous voulez, qui sont sans cesse matraqués. D'un côté, la politique des caisses vides, donc ce qu'on peut appeler également le chantage à la dette, c'est-à-dire affoler la population en faisant croire que le déficit va être incontrôlable et qu'il faut absolument réformer, c'est le premier argument. Deuxième argument qui va avec, c'est le fait de prétendre que la politique, enfin la réforme qui est engagée est la seule possible. C'est le fameux « there is no alternative » qui a été mis en évidence par Margaret Thatcher dans les années 80 et qui donc conduit les gens à accepter ces réformes néolibérales extrêmement brutales.
Nicolas Marquez, j'imagine que vous n'êtes pas tout à fait d'accord.
Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Anaïs, mais je vous donne un exemple. Le régime de retraite le plus déséquilibré, c'est l'État. Et on ne peut pas dire que l'État pratique la politique des caisses vides en France. Et il est plus déséquilibré parce qu'il a une démographie totalement déséquilibrée. Vous regardez une fiche de paie d'un fonctionnaire, la cotisation retraite, c'est 85% du traitement indiciaire. C'est énorme, ça se compare à 28% du salaire brut. C'est pas parce que l'État n'a pas assez de recettes. On sait très bien que la fiscalité est très significative. Et donc, clairement, attaquer la politique des caisses vides, alors qu'on a des taux de cotisation retraite très très élevés, ça me chiffonne. Je vous donne une autre image. Pourquoi c'est important ? Sur un fonctionnaire, aujourd'hui, vous prenez un instit, vous prenez un chercheur, il y a quasiment autant sur certaines fiches de paie pour lui que pour le retraité. Et ça obère toutes les marges de manœuvre. Si le point d'indice a stagné dans la fonction publique pendant 10 ans, c'est en partie parce qu'on est dans un pays où l'État a fait une promesse généreuse, et un employeur doit faire une promesse généreuse, mais n'a rien mis de côté. Et donc ça pénalise à la fin les personnels.
Mais est-ce qu'il n'y a pas tout de même un argument très solide autour d'une réforme nécessaire sur le plan budgétaire, un argument qui est peut-être grossi par le gouvernement pour justifier cette réforme, Antoine Bozio ?
Alors, il y a un autre argument que met en avant le gouvernement, qui a mis en avant le gouvernement au début des discussions, mais qui est un peu moins aujourd'hui, mais qui est le fait qu'il y a l'argument de la trajectoire des finances publiques plus globale. C'est-à-dire que dans le cadre des finances publiques ensemble, le fait de choisir, le fait de combler le déficit par une hausse de l'âge de départ va avoir des impacts au-delà du système de retraite. Parce que on ne paye pas que des cotisations retraite, on paye d'autres impôts, on paye de la TVA, on paye de l'impôt sur le revenu. Et donc le fait de choisir cet instrument particulier qui n'est pas du tout le seul instrument possible pour répondre à la question de l'équilibre du système de retraite, par contre a un impact additionnel sur les finances publiques en termes de recettes supplémentaires et donc d'équilibre des finances publiques plus globales.
Comme justement la vie mérite d'être vécue,
France Culture.
Il faut quand même donner à l'individu une certaine marge quand même de vie libre.
Et dans toutes les professions, c'est pareil.
Entendez-vous l'écho ?
Pour les hommes à 60 ans et pour les femmes à 50 ans.
Si ça se trouve, j'arriverai pas à 65 ans, alors ma foi.
Tiffaine de Rocchini. Les arguments économiques de la réforme sont-ils fondés ? C'est l'objet de notre débat aujourd'hui avec Nicolas Marquez, Antoine Bozio et Anaïs Engel. On vient d'entendre quelques propos recueillis dans les rues de Paris en 1962. Dans cette réforme, la mesure qui fait le plus débat, c'est le recul de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. En quoi cette mesure permettrait-elle de faire des économies, Nicolas Marquez ? Très simplement.
Mais clairement, si on travaille plus longtemps, il y a des cotisations qui rentrent plus longtemps. Ça, c'est un volet d'économie. Et puis, il y a des retraites qui sont distribuées moins longtemps. Donc, dans les deux sens, ça fait un effet ciseau, dans le bon sens, entre guillemets, pour les caisses. Et donc, c'est une mesure d'économie très efficace.
Alors, ce serait 0,3% du PIB selon les calculs, mais est-ce qu'il n'y en a pas une partie de ces gains générés qui va être perdue, parce qu'il faudrait payer, Anaïs Engel, davantage d'allocations chômage et d'indemnités d'invalidité pour ceux qui restent hors de l'emploi jusqu'à 64 ans ?
Oui, bah c'est ce que dit notamment l'adresse, la direction des études du ministère du Travail, qui nous explique qu'en effet, une partie de ces gains attendus par la réforme proposée des retraites serait bien perdue par justement une augmentation des prestations maladie ou des prestations chômage pour les personnes, on va dire, entre 62 et 64 ans, justement. J'aimerais revenir justement sur cette histoire, c'est-à-dire que c'est vraiment 62 à 64 ans, ce recul, il est extrêmement brutal et il est extrêmement surtout homogène, il concerne toutes les catégories de la même manière dans la réforme qui est proposée, alors qu'on sait aujourd'hui que l'espérance de vie, notamment l'espérance de vie en bonne santé, dont on parle beaucoup, tout, qui est, je rappelle, de 64 ans pour les hommes et 66 ans pour les femmes aujourd'hui en France, eh bien, elle est très diversifiée selon les classes sociales, le revenu, la profession et les conditions de travail en général.
On va revenir évidemment sur le caractère juste ou non de cette réforme, peut-être sur le fait que cette mesure, ce décalage de 62 à 64 ans qui va mettre le système en excédent, Antoine Bozio, est-ce que ça c'est pas un argument positif en faveur de cette réforme, avec l'idée que cet excédent pourrait être réinjecté dans d'autres secteurs, par exemple dans les services publics?
Alors, je ne crois pas que la hausse de l'âge légal de 62 à 64 ans va mettre le système en excédent. Simplement, même à l'horizon, à la fin du quinquennat, le système sera toujours en déficit, et c'est en l'horizon 2030 qu'on va se rapprocher de l'équilibre. Non, l'effet supplémentaire qu'attend le gouvernement, c'est un effet de type d'externalité positive sur les recettes fiscales, parce que effectivement, là, ce qui serait important d'être mettre dans le débat, c'est que si jamais on choisit une des mesures, et on pourra revenir, il y a différentes façons d'augmenter l'âge de départ en retraite, mais si on arrive à augmenter l'âge de départ en retraite, ça fait des emplois supplémentaires, potentiellement, qui payent des impôts supplémentaires en plus des cotisations, et ça permet de faire d'autres dépenses, mais qu'on aimerait discuter aussi. Lesquelles? Les dépenses pour la prise en charge de la perte d'autonomie, sur les EHPAD, des dépenses pour l'éducation, la santé ou autre. Enfin, ça fait partie de la discussion qu'on aimerait avoir collectivement au moment de cette réforme.
Nicolas Marquez.
Et ça fait plus de services publics. Parce que Vision État, qui est l'employeur qui a le passif retraite le plus important, elle a promis 2770 milliards, ça fait des fonctionnaires qui travaillent deux ans de plus. Vous prenez le budget de l'éducation nationale, 28% du budget de l'éducation nationale, c'est la retraite. Parce que l'État n'a rien préparé pour la retraite. Et donc, vous aurez des enseignants qui vont travailler deux ans de plus et qui ne coûteront pas beaucoup plus cher aux finances publiques. Donc, c'est bon pour l'enseignement, c'est bon pour l'hôpital, la police, la justice.
Parmi les arguments en faveur de ce décalage, l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans, il y a le fait qu'on vit plus longtemps, on l'a dit, et aussi le fait qu'il y a de moins en moins d'actifs par rapport au nombre de retraités. On entend souvent cette phrase selon laquelle il y avait 4 actifs pour un retraité en 1950. Désormais, c'est 1,7 actif pour un retraité. Est-ce qu'il faut tenir compte de ces évolutions démographiques, Anaïs Engel?
Mais encore une fois, ces évolutions démographiques, on en a déjà tenu compte en 2003, en 2010, en 2013 lors des précédentes réformes, donc elles sont effectivement là, on peut pas nier les chiffres que vous venez de donner sur le ratio démographique qui se détériore. Néanmoins, on a déjà pris en compte ces éléments dans les précédentes réformes qui elles aussi d'ailleurs ont conduit à ce que beaucoup de personnes arrivent à la retraite plus difficilement et plus de mal à cotiser, à avoir leur nombre de trimestres et à atteindre l'âge d'ouverture des droits, donc que ces personnes-là touchent de petites retraites. À mon avis, c'est pas du tout ça le problème. Le problème du système de retraite aujourd'hui, c'est plutôt justement son inéquité et puis aussi les petites pensions qui existent beaucoup en France à l'heure actuelle.
Pour vous, Nicolas Marquez, vous auriez peut-être complété cette réforme avec peut-être une politique nataliste, puisque ce que vous dites, c'est qu'il y a un vrai problème de faible natalité en France.
La baisse de la natalité, elle date de 1750, elle est historique. Quand on est passé en répartition en 41 et en 45, les pouvoirs publics, à chaque fois, on dit exactement dans les mêmes mots, vous regardez les ordonnances, on adorerait mettre l'âge de la retraite à 60 ans, mais ça serait mettre un fardeau trop important sur les générations futures, donc on se contente de mettre 65. Et c'est très bien expliqué dans l'ordonnance de 45. Ça, on aurait dû en tenir compte. Et clairement, on voit la baisse du taux de rendement interne des retraites. La première génération avait un taux de rendement interne qui était aux alentours de 9%. C'est standard quand on met en place une répartition. Et là, on est aux alentours de 1,5%. Et ce taux de rendement interne, il va encore se dégrader avec la réforme actuelle. Il va probablement se dégrader encore. Et clairement, on cherche à compenser cette baisse de la fécondité. On est à 1,8 enfant par femme. Dans les années 50, on était à 3. Par une augmentation de l'âge. Mais ça a des limites, cette méthode. On voit bien que les Français sont pas ravis de travailler plus longtemps. Et je vous donne une image qui fait pour que tout le monde comprenne. Si les naissances disparaissaient, il faudrait que les dernières générations travaillent jusqu'à leur mort. Et ce n'est pas souhaitable.
Antoine Bozio.
Alors, deux choses quand même pour compléter, enfin même corriger. C'est-à-dire qu'en 1945, l'âge d'ouverture des droits, c'est 60 ans. Ça a été toujours 60 ans. C'est très important de savoir ça en tête. La raison pour laquelle en 1945 et dans les décennies qui ont suivi, les gens partaient 65 ans, c'est parce que le niveau des pensions était trop faible à 60 ans pour pouvoir partir à 60 ans. Il y avait très très peu de gens qui partaient à 60 ans.
Et qu'à l'époque, la population la plus pauvre, c'était donc, les retraités.
Exactement. Et donc les gens attendaient, alors que l'espérance de vie était beaucoup plus faible à 65 ans, ils attendaient assez tard avant de partir avec des hauts niveaux de retraite qui étaient vraiment beaucoup plus faibles. En fait, ce qui s'est passé, comme on a dit, le passage à 60 ans en 1983, la fameuse réforme qu'a annoncé François Mitterrand, c'était en fait de permettre de partir à 60 ans au taux plein, c'est-à-dire sous la condition de la durée d'assurance qui a été créée à cette époque-là. Donc ça, c'est très important de comprendre parce que, en fait, on n'était pas dans cette mesure-là d'une certaine façon. On partait déjà à 65 ans en 1950, alors même que l'âge d'ouverture des droits était 60 ans.
Vous avez un deuxième point.
Pas le paramètre essentiel. Le deuxième point, c'est que ce n'est pas la baisse de la natalité qui explique l'essentiel du changement du ratio démographique. C'est l'augmentation de l'espérance de vie aux âges élevés. C'est ça qui est le facteur principal. C'est une erreur qu'on a longtemps pensé, parce que ça a été le cas en le 18e, 19e siècle, que le vieillissement de la population venait du bas, c'est-à-dire de natalité plus faible. Mais aujourd'hui, toute l'augmentation de l'espérance de vie qui a eu lieu, c'est ça le moteur principal, c'est on appelle la pyramide des âges, elle a vieilli par le haut. C'est pas parce qu'on avait moins de naissances, c'est parce qu'il y avait plus de personnes qui étaient aux âges élevés et qui ont expliqué cette dégradation du ratio démographique.
Espérance de vie qui tend tout de même à stagner, hausse de l'espérance de vie qui tend à stagner depuis quelques années. Et malgré tout, est-ce qu'il n'est pas normal, Anaïs Engel, de travailler plus longtemps puisqu'on vit plus longtemps?
Bah, en fait, c'est la question, tout dépend de ce que vous appelez normal, c'est-à-dire il faut définir le terme de normalité. En tout cas, c'est pas souhaitable à mon sens. C'est pas souhaitable parce que là encore, on est sur une question de choix politique. C'est-à-dire, on va travailler plus longtemps pourquoi? Pour faire quoi? Pour produire quoi? Pour acheter quoi? Pour consommer quoi? Comme disait Antoine Bozio, c'est-à-dire qu'on a, l'État effectivement attend plus d'impôts, plus de consommation, etc., en faisant travailler les gens plus longtemps. C'est un choix sociétal. Est-ce que vraiment on a besoin de produire plus? Est-ce qu'on est à un point où l'augmentation de l'âge d'ouverture des droits nous fera bénéficier de plus de confort, de plus de services publics? Bon, moi je pense que c'est pas du tout la bonne méthode pour ça, que pour avoir des services publics de qualité, il faut déjà embaucher des fonctionnaires et non simplement prolonger ceux qui sont déjà là de 62 ou 64 ans. Et puis c'est aussi une question environnementale, une question écologique, donc ça pose là aussi une question intergénérationnelle, d'ailleurs, qui est beaucoup plus large que celle des retraites. Qu'est-ce qu'on veut comme société? En l'occurrence, moi je pense qu'on veut pas une société où on produit plus ou travailler plus sans se poser aucunement la question du sens du travail ou la question de la place du travail dans la société.
C'est vrai que quand on regarde les chiffres de l'espérance de vie en bonne santé, vous les avez rappelés, hein, Anaïs Engel,
oui.
64 ans pour les femmes, 62,7 ans pour les hommes, on a du mal on arrive à comprendre pourquoi cette réforme est aussi impopulaire, pourquoi ce décalage de l'âge légal de départ à la retraite passe aussi mal, Nicolas Marquez, non?
Oui. Alors, je vous relire une phrase de l'ordonnance de 45 que j'aime beaucoup, hein. C'est l'insuffisance de la natalité entraîne un vieillissement lent et progressif de la population. Or, les retraites sont supportées par les travailleurs en activité. La fixation d'un âge trop bas, d'où l'ouverture du droit à retraite, ferait peser sur la population active une charge insupportable. Et c'est ça le sujet. En fait, notre système de retraite, il a été pensé au 19e siècle comme une assurance contre le risque de vivre longtemps et d'être invalide. Et c'est pour ça qu'on est dans un système sans provisionnement, qui est un système entre guillemets assurantiel. Et c'est effectivement, c'est regrettable de devoir travailler plus longtemps, mais on a un système à financer, on est très loin de l'épure de la répartition, où avec une seule cotisation sur le travail, on devrait arriver à financer les retraites.
Antoine Bozio.
Donc la question de l'espérance de vie en bonne santé, c'est une question importante, parce que c'est d'arriver à... Comment on arrive à gérer le vieillissement, qui est plutôt une bonne nouvelle, le fait qu'on a une espérance de vie qui a fortement progressé, on peut pas... C'est une bonne nouvelle de société, qui vient de plein de gains sur la santé, sur notre condition de vie, donc... Tout ça est une bonne nouvelle. Simplement, il faut arriver à faire en sorte que cette bonne nouvelle se traduise par un vieillissement de qualité et qui ne soit pas supporté et à la fois au travail et dans les moments de la retraite comme une perte finalement de capacité, d'autonomie. Donc ça, c'est un des grands enjeux qui dépasse la question simplement de retraite, mais qui par contre n'est pas aussi caricatural qu'on pourrait l'avoir en tête. L'espérance de vie en bonne santé a continuellement augmenté pendant les dernières décennies qu'on a pu avoir. Aujourd'hui, on voit une sorte de stagnation de ces espérances de vie, mais elles progressent encore toujours. On a du mal à voir des effets complètement négatifs, alors que, bon, là, on a vu les effets négatifs du Covid, mais sur la plus longue durée, pour l'instant, on s'est généralement trompé dans le passé en supposant que l'espérance de vie n'allait pas continuer à augmenter, et à chaque fois, on s'est trompé. Ça, c'est le fait des 30 dernières années de s'être trompé dans ce sens-là.
ce qu'on peut se demander aussi, c'est s'il était vraiment nécessaire de proposer ce recul de l'âge légal de départ à la retraite, dans la mesure où l'âge de départ va mécaniquement augmenter progressivement jusqu'à 64 ans, Antoine Bozio.
Alors moi, je pense que c'est un point très important de comprendre, c'est-à-dire qu'on peut très bien pouvoir souhaiter qu'il y ait une augmentation de l'âge moyen de départ en retraite. L'âge moyen de départ en retraite, c'est quoi? C'est souhaiter d'augmenter le taux d'emploi des seniors. C'est la même chose, hein, d'un point de vue d'une mesure statistique, mais on voit bien, en le disant de cette façon-là, de quoi on parle. La question, c'est comment fait-on pour augmenter le taux d'emploi des seniors? Et alors qu'on voit, il y a des politiques de l'emploi, il y a aussi des politiques de la retraite, mais il n'y a pas qu'une seule façon de le faire, qui serait d'augmenter l'âge légal, comme si c'était le seul paramètre qui nous permettrait d'augmenter. Donc, il était déjà prévu une augmentation de l'âge effectif de départ en retraite avec les réformes passées, dont l'augmentation de la durée d'assurance requise pour le taux plein. C'est ce qu'on appelle la dernière réforme Touraine, qui l'a portée à 43 ans initialement avec pour la génération 1973. Donc, avec la réforme proposée,
ça va être avancé de 8 ans.
On va arriver à des générations qui ont commencé en moyenne plus tard sur le marché du travail, et pour qui cette condition de durée d'assurance va devenir, on appelle, plus mordante, c'est-à-dire qu'on aura beaucoup plus de monde qui va être touché par cette condition. C'est ça qui faisait augmenter déjà l'âge moyen de départ, en fait, à 64 ans en moyenne, avant la réforme.
L'autre grande question économique qui se pose, c'est celle de l'impact de cette réforme sur la croissance et sur l'emploi. Qu'est-ce qu'il faut attendre du projet de loi du gouvernement en la matière, Nicolas Marquez?
Alors, il y a un débat sur le court terme, mais à long terme, je pense qu'il y a un relatif consensus sur le fait que plus de population active qui travaille, c'est plus de croissance. Alors bien sûr, peut-être il y aura peut-être plus de chômage transitoire, tout le monde ne travaillera peut-être pas plus longtemps. Ça, c'est pour le secteur privé. Pour le secteur public, ça veut dire qu'il va y avoir des fonctionnaires qui vont travailler 2 ans de plus. Et là, c'est tout gagnant. Mais d'ailleurs, la réforme, il faut le dire clairement, elle est avant tout faite pour les comptes de l'État. Cette réforme, c'est la conséquence du non-provisionnement des retraites dans la fonction publique. Vous regardez les caisses de retraite du secteur privé, elles n'étaient pas demandeurs de la réforme. Et vous regardez les déficits, par exemple, les GIRC-ARRCO, il n'y a pas de sujet sur la solidité financière. Les partenaires sociaux gèrent à 15 ans, il y a des points, il y a 6 mois de réserve. La réforme, c'est avant tout la conséquence de finances publiques qui dérapent structurellement depuis les années 80, depuis le contre-choc du baby-boom, elle est faite pour ça.
Mais justement, pour aller au-delà de la question budgétaire et pour parler vraiment de l'impact sur la croissance, sur l'économie, Anaïs Engel, est-ce que ça, c'est un argument en faveur de cette réforme des retraites?
Mais alors, il y a deux choses. Alors d'abord, on dit donc que plus de personnes en activité égale plus de croissance. Déjà, toujours, encore faut-il que les personnes soient vraiment en activité et le reste, hein, puisqu'aujourd'hui, on a, comme vous le savez, un taux d'activité des seniors, un taux d'emploi des seniors qui est relativement faible en France. En plus, bon, plus de croissance, pourquoi faire? Encore une fois, ça renvoie, faut-il vraiment augmenter toujours plus la production française? Et deuxième point, on a actuellement donc des modèles de simulation macroéconomique qui sont utilisés par l'INSEE en particulier pour prévoir l'effet des différentes réformes. Ce sont les modèles Mésange en particulier. Eux prévoient que cette réforme des retraites conduirait à une augmentation du PIB à moyen terme d'environ 0,3 points. Bon, si tout ce qu'on a trouvé pour stimuler le PIB français, je pense qu'on est quand même un peu dans le dur, puisque ça ne stimule pas grand-chose.
Ça va créer de la richesse, mais pas assez, Antoine Bozio.
Alors, quand on parle de l'effet sur la croissance, il faut bien comprendre qu'en fait, ce n'est pas un effet sur le taux de croissance. Parce que le taux de croissance, ça voudrait dire qu'on fait une réforme, et du coup, le taux de croissance augmente, et du coup, on est sur une trajectoire différente. Ce n'est pas de ça du tout. C'est un effet simplement que le fait qu'on aurait plus de personnes en emploi qui augmente, c'est un effet positif sur donc le PIB, revenu national, et donc ça a un effet temporaire sur la croissance, mais donc c'est juste un effet de taille du gâteau, mais ça ne va pas changer la trajectoire de croissance, on ne va pas devenir tout d'un coup plus productif, parce que on va prolonger la durée de nos carrières. Mais il y a bien un effet qu'on a pu mesurer à la fois dans les réformes précédentes, où on a pu toucher, augmenter l'âge, en 2010 il y a une réforme qui a augmenté de 60 à 62 l'âge d'ouverture des droits, et dans d'autres pays européens où des réformes similaires, on voit des effets pour les personnes qui sont en emploi, elles restent en emploi, il n'y a pas de perte d'emploi ailleurs, et donc on voit le nombre d'emplois qui augmente, et donc c'est ça qui fait l'augmentation de la taille du gâteau.
Anaïs Engel, Antoine Bozio, Nicolas Marquez, vous restez avec nous, on continue ce débat dans un instant.
Quand on m'a dit allumer.
La chanson du retraité de Félix Leclerc sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, les arguments économiques de la réforme sont-ils fondés? C'est l'épineuse question que nous soulevons aujourd'hui avec nos trois invités, Anaïs Engel, Nicolas Marquès et Antoine Bozio, dans cette émission réalisée par Colin Gruel et Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Timothée Hubert. Alors si la question de l'utilité économique et budgétaire de la réforme continue de diviser, il en est une autre qui crée le débat, c'est celle-ci. La réforme est-elle juste, car le gouvernement a choisi d'actionner le levier de l'âge légal de départ à la retraite, mais il aurait pu jouer sur les deux autres paramètres, Antoine Bozio, à savoir le montant des pensions et le niveau des cotisations.
Alors, il aurait pu jouer sur plein d'autres paramètres. Ah. En fait, les possibilités sont infinies. En fait, on peut effectivement choisir à grands traits de dire, soit je fais peser sur les retraités en faisant, c'est assez facile, une sous-revalorisation des pensions, 300 milliards de dépenses, vous enlevez 1%, ça fait 3 milliards. Donc c'est une option, mais vous faites baisser le pouvoir d'achat des retraités.
Bon. Et ça, c'est politiquement compliqué politiquement pour compliqué, Emmanuel Macron, dont une grande
aussi,
partie de l'électorat, c'est précisément
c'est des retraités. Revenir sur l'objectif d'un système de retraite qui est donner une garantie de niveau de vie à la retraite. Donc c'est pas forcément, notamment, complètement évident à faire. La deuxième option, c'est de dire j'augmente les cotisations sur les actifs, c'est-à-dire je baisse le pouvoir d'achat des actifs. C'est ce qu'on a fait souvent, puisque dans le passé, on a souvent fait des augmentations de cotisations. Elles ont passé de 10-11 points de PIB à 14 points de PIB en l'espace d'une vingtaine d'années. Donc on sait le faire. Simplement, ça appelle ce pouvoir d'achat des actifs. Dans la période actuelle, c'est pas complètement non plus évident de dire que c'est facile à accepter. Troisième option, on essaye d'augmenter l'âge de départ. Et là, il y a encore plein de paramètres possibles, puisqu'il y a la durée d'assurance pour le taux plein, il y a l'âge légal, il y a plusieurs âges, et en fait, il y a plusieurs catégories d'âge. Et puis même, il y a un autre paramètre dont on a peu parlé, c'est qu'il y a aussi la formule de calcul, les salaires de référence, comment on calcule la pension. En fait, il y a plein de paramètres possibles.
Alors, on va rentrer dans le détail de toutes ces possibilités. D'abord, peut-être dire que selon Laurent Berger, donc secrétaire général de la CFDT, reporter l'âge légal de départ à la retraite, c'est jouer sur le paramètre le plus anti-redistributif, et cela malgré les aménagements prévus par le gouvernement pour ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans. C'est également votre avis, Anaïs Engel?
Oui, bien sûr, je suis entièrement d'accord avec Laurent Berger pour cette remarque-là, c'est-à-dire que cette réforme, je ne vois pas pourquoi le gouvernement parle de réforme juste, ça me paraît être un non-sens total. Là, on a effectivement un report de 2 ans pour tout le monde, y compris pour les carrières longues, hein, qui devront travailler de 60 à 62 ans, elles, au lieu de 62 à 64 ans. Et on a également un effet qui est beaucoup plus fort sur celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, puisqu'on sait que quand on a commencé à travailler à 20 ans, par exemple, on devra cotiser 44 ans, ou bien travailler pendant 44 ans, attendre en tout cas d'avoir 64 ans.
Donc, les plus touchés, c'est ça, c'est ceux qu'on commencé entre 18 et 22 ans.
Voilà, en gros, c'est ceux qui sont les plus concernés, donc ce sont généralement les catégories, on va dire, moyennes, les classes moyennes françaises, en tout cas, ce ne sont pas les classes supérieures qui sont le plus mises à contribution, alors que celles-ci sont celles qui ont l'espérance de vie la plus longue, donc qui par ailleurs vont toucher leur retraite pendant le plus longtemps.
Est-ce qu'il ne serait pas plus juste, Nicolas Marquès, si on veut toucher à l'âge de départ à la retraite, de toucher non pas à l'âge légal, mais à la durée de cotisation? Puisque précisément, on ne démarre pas tous en même temps.
Rétrospectivement, on voit que toucher à la durée de cotisation, ça pose moins de problèmes que toucher à l'âge. Mais cette réforme, clairement, j'y reviens, désolé d'insister, elle est faite parce que il y a un sujet déficit public, déficit des comptes de l'État. Et ce qu'on voit, c'est que...
Bien sûr, mais sur le choix qui a été fait de l'âge légal, l'État s'empare, pas la durée de cotisation.
L'État s'empare globalement du sujet et mélange des sujets différents. Il devrait y avoir une vraie négociation dans la fonction publique ou un provisionnement des retraites. Et dans le secteur privé, ils sont beaucoup moins demandeurs de la réforme parce que les déséquilibres sont moins importants. Et la vraie erreur de l'État, c'est d'additionner tous les problèmes, de se mettre en première ligne et de prendre tous les coups et de ne pas résoudre ces problèmes d'État employeur.
Antoine Bozio, il aurait fallu augmenter la durée de cotisation?
Donc, quand on touche à la durée de cotisation, on touche plus fortement les personnes qui ont commencé plus tard à travailler pour avoir la durée d'assurance et qui, du coup, reportent leur départ. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les 10%, 15% les plus hauts salaires seront moins touchés que ceux qui sont dans le milieu de la distribution, parce qu'en moyenne, ils ont commencé plus tard et donc ils partaient déjà au-delà de l'âge de 64 ans. Donc toucher cette durée d'assurance, ça permet de toucher, de faire contribuer ceux qui sont souvent des plus hauts salaires et en état de travailler plus longtemps. Le problème de toucher uniquement avec la durée de cotisation, c'est un double problème. Le premier problème que le gouvernement était prompt à souligner, c'est qu'il est c'est plus lent comme effet. Pourquoi ? Parce que les générations qui vont vraiment être sensibles à la durée d'assurance, en fait, elles sont pas encore arrivées en retraite. Et aujourd'hui, on a beaucoup de monde qui sont du coup peu touchés par cette augmentation de la durée. Donc l'effet à terme, il serait le même, mais simplement, ça prendrait plus de temps à se manifester. Et la deuxième raison, elle est plus technique, mais en fait, les petites pensions, elles sont aussi soumises à cette augmentation de la durée d'assurance parce que on proratise leurs pensions et donc les femmes qui partent à 67 ans ou les personnes qui partent avec des pensions d'invalidité souffrent en fait sur le montant de pension d'une augmentation de la durée d'assurance.
C'est-à-dire qu'il doit souvent attendre 67 ans pour éviter la décote.
Exactement. Et donc du coup, ça, c'est double effet qui n'est pas totalement... On pourrait très bien trouver une combinaison technique pour éviter ce type de problème. Mais simplement, dans le cadre actuel de la discussion « je touche la durée d'assurance versus je touche un autre paramètre », l'effet n'est pas uniforme.
Justement, sur les femmes, selon le ministre du Travail, Olivier Dussopt, ce qu'il a déclaré à l'Assemblée, la réforme devrait protéger les femmes. Qu'est-ce que vous en pensez, Anaïs Engel ?
Mais là encore, je ne comprends pas. C'est-à-dire, c'est purement rhétorique. Je ne vois pas dans la réforme proposée ce qui protégerait les femmes. En fait, là, les femmes dans le système actuel, le système actuel est déjà relativement inégalitaire. C'est-à-dire qu'effectivement, les femmes touchent en moyenne des pensions de droit direct inférieures à 40% à celles des hommes.
À cause des carrières morcelées.
Voilà, à cause des carrières morcelées. C'est-à-dire que non seulement les femmes ont des carrières plus difficiles, elles arrêtent à certains moments de leur carrière pour s'occuper de leurs enfants, elles ont des congés maternité, elles ont aussi des salaires moins élevées parce qu'elles ont des temps partiels, par exemple. Bon. Donc, en gros, elles ont un cumul des inégalités tout au long de leur carrière qui se traduit par des pensions inférieures lorsqu'elles partent à la retraite. Ça, c'est un problème et ça, effectivement, il faudrait le résoudre à terme. La réforme proposée propose simplement d'augmenter l'ouverture, l'âge légal d'ouverture des droits. Bon, je vois pas en quoi ça...
Alors que l'âge d'annulation de la décote, qui est à 65 ans, ne changera pas. Donc, ce que veut dire le gouvernement, c'est que ça va empirer pour tout le monde, mais ça va rester la même chose pour les femmes.
Oui, mais
en tout cas, pour les 20% de femmes qui attendent 67 ans pour
bah, c'est ça, mais du coup, ça ne change rien pour elles. Il faudrait, à minima, soit supprimer la décote, qui est un mécanisme extrêmement inégalitaire pour les femmes en particulier, soit restreindre considérablement l'âge d'annulation de la décote pour elles, au moins.
Antoine Bozio.
Oui, alors là, le gouvernement tire un petit peu pour dire que c'est une réforme qui est très favorable aux femmes. Alors effectivement, les femmes qui sont aujourd'hui plus majoritaires à partir de 67 ans, donc de ne pas être touchées par cette hausse-là, mais en fait, elles sont en moyenne plus sensibles en fait à la réforme d'augmentation de l'âge de départ. Donc, et par ailleurs, dans le futur, elles seront moins souvent soumises à la contrainte de l'âge de 67 ans parce que les nouvelles générations ont plus de carrières de droits accumulés et donc cette différentielle homme-femme va tendre à se réduire. Donc le fait de dire que c'est une réforme qui est particulièrement favorable aux femmes me paraît pas tout à fait exact.
Alors il y a eu beaucoup de critiques qui ont été émises autour de cette réforme. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même une mesure qui doit être saluée, le fait que le minimum de pension pour les personnes ayant effectué une carrière complète au SMIC ne pourra pas être inférieur à 1 200 € brut par mois, c'est environ 100 € de plus mensuel. Est-ce qu'il s'agit d'une vraie mesure de justice sociale, Anaïs Engel?
Oui, alors bon, moi je commence c'est-à-dire que je suis un peu embêtée par cette recherche permanente de circonstances atténuantes à la réforme. On me demande sans arrêt ce que j'en sauverais. Bon, j'aimerais bien demander à ceux qui sont partisans de la réforme ce qu'ils en enlèveraient, parce qu'il y a beaucoup à enlever, je pense. Par rapport à cette proposition de 1 200 € brut pour une carrière complète, eh bien justement le problème c'est que ça concerne les carrières complètes, comme je viens de le dire. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas de carrière complète, et c'est souvent celles-là qui ont des pensions les plus faibles, elles ne vont pas toucher 1 200 € une fois arrivées à leur retraite. Donc c'est un peu, si vous voulez, une sorte de mensonge par omission de la part du gouvernement, puisqu'on voit autour, quand je vais par exemple dans des cafés citoyens ou ce genre d'endroits, je croise beaucoup de gens qui ont l'espoir effectivement de toucher cette somme-là, qui ne sont pas du tout concernés en réalité.
Ça risque de créer des déçus, Antoine Bozio ?
Oui, ça risque de créer des déçus parce que je crois qu'une grande partie du public a compris que c'était une pension minimale, 1 200 €. Alors que, en fait, c'est bien une pension qui va inclure, en fait, c'est une majoration du régime de base qui, avec le régime complémentaire, va vous approcher de 1200 euros si vous avez les bonnes conditions et si vous avez une carrière complète. Donc, les petites pensions seront de toute façon proratisées parce qu'elles sont, donc elles n'auront pas le 1200 euros. Donc, ça va créer des déceptions, oui.
France Culture. Entendez-vous l'écho. Tiphaine de Roquigny.
Nous poursuivons notre débat sur la réforme des retraites avec Nicolas Marquès, Antoine Bozio et Anaïs Engel. Alors, vous l'avez dit, Antoine Bozio, il y a énormément de possibilités qui visent peut-être à rétablir l'équilibre de notre système de retraite et notamment la hausse des cotisations sociales et patronales. Est-ce que cette hausse vous semble possible, Anaïs Engel, sans trop nuire au pouvoir d'achat des salariés d'une part et à la compétitivité des entreprises de l'autre ?
Alors, cette hausse, elle peut être effectivement envisagée. Alors, sans nuire à la compétitivité des entreprises, ça, je ne peux pas m'y engager formellement. C'est vrai que là, on estime, pour donner un ordre de grandeur, on estime que pour un salaire, enfin pour quelqu'un au salaire moyen en France, cette hausse, enfin la hausse des cotisations nécessaires pour réduire, pour annuler le déficit prévu en 2030, d'après le COR, ce serait d'environ 33 euros par mois. Alors, ça ne veut pas dire que les gens perdraient 33 euros par rapport à ces touches actuellement. Parce que dans 10 ans, on aura normalement gagné en productivité, donc gagné en salaire. Ça veut simplement dire que la hausse du salaire ne sera pas aussi haute que ce qu'elle devrait être. On devrait normalement avoir à peu près 130 euros, tous et toutes, enfin, en moyenne, de gains salariaux. Donc on n'en toucherait que 100 euros si on faisait cette mesure en application.
Donc ce serait possible, mais peut-être que c'est une mesure qui est compliquée à mettre en place dans une période d'inflation, Nicolas Marquès.
En fait, Anaïs disait qu'il faudrait augmenter de 33 euros, mais le COR sous-évalue déficit de retraite et il les sous-évalue par 4. Donc ça veut dire qu'il faudrait augmenter les déficits.
Mais s'il s'agissait de 33 euros, ça vous paraîtrait faisable, Nicolas
Marquès ? Non, mais en fait, il s'agit d'une centaine d'euros. Et si on augmente les cotisations patronales, à la fin, ça retombe sur les salaires. Parce que une entreprise, clairement, elle ne paie pas d'impôts. L'entreprise qui survit, elle repousse l'impôt sur les clients, elle repousse l'impôt sur l'actionnaire, si tout ce beau monde accepte de supporter l'impôt, et sinon c'est le salarié. Et clairement, si on augmente les cotisations patronales retraite, ça se paiera avec une modération salariale, moins d'augmentation. On le voit bien dans la fonction publique, la cotisation patronale de l'État, c'est 77% du traitement indiciaire. Et comme je vous le disais tout à l'heure, depuis le contre-choc du baby-boom, on a vu le gel du point d'indice, et on a vu un comportement malthusien de l'État qui embauche le moins possible. C'est parce qu'en priorité, il paie les retraites de ses anciens fonctionnaires. Donc clairement, ça retombe en plus fine, plus ou moins rapidement, sur le pouvoir d'achat.
Antoine Bozio, sur la possibilité d'augmenter les cotisations sociales et patronales.
Alors, je pense que c'est tout à fait possible économiquement. Il n'y a pas de... On l'a fait dans le passé. La conséquence, il faut juste l'avoir en tête, c'est que l'ensemble des cotisations, qu'elles soient nominalement sur les employeurs ou les salariés, finit par être payée par les salariés sous la forme de salaire net plus faible. Mais on a fait ce choix-là. C'est pas si on était si c'est là où le choix politique collectif qu'on doit faire doit être mis au clair. Si on préfère avoir moins de salaire net pour avoir plus de retraite, nous cotisons dans la bonne humeur. Mais si on pense qu'en fait cette thèse de pouvoir d'achat, on ne veut pas l'accepter, alors travaillons dans la bonne humeur. Ou trouvons les moyens. C'est un arbitrage à faire entre deux options qui ne sont évidemment pas plaisantes, d'avoir moins de pouvoir d'achat ou de travailler plus longtemps, mais c'est bien cet arbitrage-là qui nous est demandé collectivement à faire.
Et puis on l'a évoqué, mais je voudrais qu'on entre un peu plus dans le détail, la possibilité de faire contribuer les retraités. Est-ce que ce ne serait pas légitime, Nicolas Marquès, puisque le niveau de vie des retraités en France est légèrement supérieur au niveau de vie des actifs?
Oui, le niveau de vie selon l'INSEE est à 101,5%. Et le vrai sujet, c'est qu'il va baisser aux alentours d'une vingtaine de points d'ici un demi-siècle. Et quand on écoute Pierre Lubras du COR, le retraité aura un pouvoir d'achat relatif en 2070 équivalent à celui de 1980.
Oui, mais le faire participer maintenant précisément, en 2023.
Oui, mais en 2020. En fait, en 2023, il participe déjà. Si vous êtes retraité et que vous avez un niveau de revenu plus élevé, vous avez un impôt sur le revenu.
Bien sûr, mais le faire contribuer davantage.
Et ils ont, depuis la fin des années 90, on fait contribuer de plus en plus les retraités. Il y a toute une série de mécanismes qui font que, en fait, au lieu de distribuer à peu près 16 ou 17% du PIB en retraite, aujourd'hui, on est aux alentours de 13 ou 14, selon les données. Donc, clairement, les retraités contribuent déjà. Et l'idée qu'ils contribueraient peu est fausse. Mmh. Quand vous regardez aujourd'hui le retraité moyen, il a un taux de rendement interne qui est aux alentours de 2, 2,5. C'est beaucoup moins élevé qu'auparavant.
Donc ce que vous nous dites, c'est que les retraités ont déjà participé à l'effort de résorber le déficit de notre système de retraite, parce qu'il y a notamment eu cette décision en 1980 de faire progresser les pensions moins vite que les salaires. Donc en ce sens, ils ont peut-être déjà fourni un effort important.
Ils ont déjà fourni, on a augmenté aussi, on a dévalorisé pour les règles de calcul, au lieu de prendre, on est maintenant sur les 25 meilleures années. Il y a toute une série d'éléments qui font que les retraités participent déjà à l'effort de guerre. Alors bien sûr, on peut dire, pourquoi pas plus, mais ça va dégrader encore la retraite.
Antoine Bozio.
Alors, le fait est qu'aujourd'hui, les retraités ont un niveau de vie qui est supérieur à celui du reste de la population. C'est quand même assez spécifique à la France par rapport, on a peu de pays qui sont dans cette situation-là. Et l'autre point qui est assez juste de Nicolas Marquez, c'est que le fait que ça ne va pas durer, parce que les retraites passées vont avoir un effet sur le niveau de vie relatif des futurs retraités. Mais par contre, on est en droit de poser la question, de savoir si dans l'effort qui est demandé aujourd'hui aux actifs en termes de repousser l'âge de départ, est-ce qu'une partie de cet effort peut être la contribution des retraités actuels, dont le niveau de vie est plutôt supérieur au reste de la population. Alors, la réponse, elle peut être conjoncturelle, parce que dans le cadre de l'inflation forte qu'on a connue cette année, et des revalorisations sur l'inflation, les salaires qui n'ont pas
l'année dernière, les
suivi en moyenne le niveau de cette inflation.
C'est ça, les pensions ont été revalorisées en fonction de l'inflation et pas les salaires.
Et pas, les salaires, eux, ils ont eu des revalorisations, mais qui sont inférieures en moyenne de ce que nous dit l'INSEE aujourd'hui de l'évaluation de l'inflation. Donc ça veut dire qu'il y a un effort qu'on pourrait, de façon temporaire, demander sur cet aspect-là aux retraités, dans le cadre d'un partage du fardeau équivalent, mais ce n'est pas une solution de long terme, au sens où on ne va pas réduire le déficit durable qu'on peut constater en faisant une baisse répétée et progressive des pensions qui remettrait en cause l'idée même que de la garantie de niveau de vie qu'on cherche à donner avec les retraites.
Et il ne s'agit évidemment pas de retomber dans la même situation qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale où les retraités étaient cette partie de la population qui était la plus pauvre, Anaïs Engel. Donc il y a quelque chose à arbitrer mais qui semble assez complexe.
Ben oui, exactement. C'est-à-dire que faut-il faire participer les retraités ? J'aurais tendance à répondre oui, les riches retraités. Mais effectivement, c'est une petite, enfin c'est une partie de la population retraitée. Quand vous gagnez déjà 800 euros par mois à la retraite, il n'est pas question de vous faire participer plus. D'autant plus que les personnes qui ont des petites pensions sont généralement, encore une fois, celles qui ont l'espérance de vie la plus faible. Donc ils vont en plus les toucher sur une durée extrêmement limitée. Alors, tout ça, c'est une question effectivement de choix politique, de savoir quelles mesures on peut mettre en place. C'est d'ailleurs pour ça aussi que cette réforme proposée, elle est assez brutale, parce que on a l'impression qu'on fait tout dans la précipitation. Le gouvernement parle d'article 47.1 puis 49.3. Bon, on a l'impression de devoir faire ça extrêmement rapidement, alors qu'en réalité, il faudrait pouvoir réfléchir à ce qu'on veut comme partage justement des efforts, mais aussi comme société pour demain. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire collectivement pour ce système de retraite et pour la société dans son ensemble, notamment dans un point de vue écologique.
Alors il y a aussi des voix qui s'élèvent pour demander une dose de capitalisation, hein, comme ça peut exister dans d'autres pays que le nôtre. Est-ce que c'est une solution à vos yeux, Nicolas Marquez ? Je crois que oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que cela concerne que les personnes les plus favorisées, celles qui ont un patrimoine et un fort revenu ?
Ouais, c'est une super question. En fait, en 45 et en 47, les pouvoirs publics ont hésité et les partenaires sociaux ont hésité à faire un système mixte avec à la fois de la capitalisation et de la répartition collective. L'histoire a fait qu'on est rentré seulement sur la répartition collective et que la capitalisation a continué à exister sur des bases individuelles. Aujourd'hui, il y a toute une série de personnes qui épargnent parce qu'ils ont une tradition d'épargne, parce qu'ils ont les moyens d'épargner, parce qu'ils ont un employeur qui propose ça. Tous les fonctionnaires, par exemple, ont accès à un fonds de pension, le régime additionnel de la fonction publique. Ça n'existe pas dans le secteur privé. Et le risque, c'est que finalement, on ait des retraites par répartition moins attrayantes, carburant, la répartition, c'est la natalité, c'est la fécondité. Sauvy disait, nos enfants font nos retraites. On a moins d'enfants, on a aujourd'hui un problème de moins de retraites. Il n'y a pas que ça, mais c'est fondamental.
L'économiste Alfred
Sauvy. Et que finalement, s'en sortent seulement ceux qui, par ailleurs, parce qu'ils ont cette tradition, cette habitude, un employeur intelligent, prévoyant, s'en sortent que ceux qui ont par ailleurs de la capitalisation individuelle. Bon. Si on généralise la capitalisation collective, c'est-à-dire organisée par les partenaires sociaux, pour tous, on couvrira tout le monde et on n'aura pas cette inégalité entre ceux qui ont de la capitalisation ou ceux qui n'en ont pas. Un système de capitalisation collective, c'est le système le plus égalitaire, parce que par essence, il ne laisse personne de côté. Alors, il y a des professions qui l'ont déjà, prenez par exemple les pharmaciens, ils ont gardé leur répartition et ils ont mis dans leur régime complémentaire de retraite, à la CAVP, une dose de capitalisation collective. Les fonctionnaires en ont. La Banque de France, les retraites sont distribuées en capitalisation collective. Et ça fait que finalement, il y a moins de tension pour financer les retraites. À la Banque de France, les retraites, elles sont autofinancées par les marchés financiers, donc il n'y a pas de problème à augmenter les personnels. Il n'y a pas de problème pour embaucher plus de personnel, parce que la retraite n'est pas un fardeau. Je vous donne une autre image. Si l'État avait provisionné en France ses retraites, comme la Banque de France, il économiserait 53 milliards d'euros par an. Ça permettrait d'augmenter les personnels, d'augmenter les effectifs, et de développer les politiques publiques. On parlait de la transition énergétique, de tous ces sujets-là.
Antoine Bozio, ça c'est une bonne idée, ça, la capitalisation collective?
Donc la capitalisation collective, c'est avoir des réserves financières, des régimes. Donc les régimes complémentaires, par exemple, ont un certain nombre de réserves, ont pris des décisions pour augmenter ces réserves. C'est à mon sens, dans le mix qu'on aimerait avoir des réserves dans nos régimes de retraite qui soient investis, ne me paraît pas du tout une mauvaise idée. Simplement, ce qu'il faut quand même bien dire, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle pour essayer de réduire un déficit courant là de 0,5 point de PIB, d'une douzaine de milliards, une dose supplémentaire de provision, de réserve, ne va pas nous aider avant 20-30 ans. Donc ça,
Et puis,
c'est intéressant, mais c'est...
C'est limité.
C'est après avoir résolu déjà le problème dans lequel on doit équilibrer nos régimes là, pour les 15 ans qui viennent.
Anaïs Engel. Écoutez, moi je tombe de ma chaise quand j'entends que la capitalisation, c'est le régime le plus égalitaire parce qu'il ne laisse personne de côté. Je pense que le régime le plus égalitaire, c'est la répartition, c'est ce que nous avons aujourd'hui, qui justement est construit pour ne laisser personne de côté précisément. La capitalisation, c'est un système, alors là, effectivement, on parle de capitalisation collective, on entend aussi la capitalisation individuelle qui se profile derrière. C'est un système qui est relativement injuste puisque, comme vous l'avez dit, les riches sont les premiers à pouvoir capitaliser. C'est un système qui est également risqué, parce qu'on a vu le cas des ménages américains. Tout le monde connaît cette histoire, et je pense qu'on n'a pas du tout envie que ça nous arrive.
Ou les fonds de pension au Royaume-Uni qui ont fait faillite.
Exactement, voilà. Et c'est un système aussi qui repose sur des intérêts privés, donc on va placer sur les marchés financiers. En l'occurrence, moi je tiens beaucoup à ce système par répartition qui est justement contrôlé par les partenaires sociaux. Là, en effet, ce qu'on voit, c'est que si cette réforme-là, elle passe. Ce qu'ont montré les travaux d'un économiste qui s'appelle donc Philippe Askenazy, qui travaille à l'ENS, c'est que les personnes les plus riches, effectivement, dans tous les pays où l'âge légal de départ a été reporté, les riches font sécession, c'est-à-dire qu'ils commencent à capitaliser seuls, de manière individuelle, comme ça ils ne sont pas concernés par la réforme, et ils peuvent quand même partir plus tôt, quitte à accepter des périodes sans aucune pension. Donc c'est exactement ce qui nous guette, à mon sens, et c'est très dommageable.
On va continuer à parler de cette réforme des retraites toute cette semaine. Un grand merci à tous les trois d'avoir été avec nous tout au long de cette émission, de nous avoir éclairé sur ces enjeux qui peuvent sembler assez complexes. Anaïs Engel, je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences à l'Université Rennes 2, membre des économistes atterrés. Antoine Bozio, directeur de l'Institut des politiques publiques et maître de conférences à l'EHESS. Et puis, il y a ce livre vers lequel peuvent se tourner les auditeurs, Parlons retraite en 30 questions, paru à la documentation française en septembre dernier, Nicolas Marquez, directeur général de l'Institut Molinari. Et les auditeurs peuvent lire votre étude parue en septembre, Retraite, mécompte et déficit public, quand un baromètre officiel sous-évalué nuit au débat public depuis 20 ans. Un grand, grand merci à tous les trois.